En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Il y a beaucoup, beaucoup de statistiques chez le Persus Milch. Je l'appelle le Persus Milch parce que j'ai une très vieille fréquentation. Non, c'est bon. Voilà. J'ai une très vieille fréquentation du pasteur Susmilch. Alors, pour un rappel quand même pour les personnes qui le connaîtraient un peu moins, il est né en 1707 et il est mort en 1767. Donc, il a vécu exactement 60 ans, et il a pratiquement, je vais vous montrer quelques images, hein, qui illustreront un peu ça, mais il a pratiquement fait toute sa carrière sous le règne de Frédéric II de Prusse. C'est un Prussien. Voilà. Et c'est très important pour le propos. C'est très important pour le propos qui est le mien. Voilà. Alors, on va voir petit à petit, j'espère, apparaître quelque chose, mais ça, c'est pas sûr. Bon, c'est ça, c'est un peu la magie. C'est très important pour le propos qui est le mien, parce que Frédéric II, bon, ça vous le savez, hein, toutes et tous, c'est un roi militaire. Il fait la guerre, et donc le pasteur Susmilch se trouve impliqué dans cette affaire dès le début de sa carrière. En fait, dès 1741, alors, il faut passer par un tas de choses, hein, là, qui, voilà, il nous dit qu'il n'a pas de réseau, et il est très long là-dessus, mais bon. Voilà, dès le début de sa carrière, donc, il est, dès 1736, aumônier militaire, dans un régiment qui est un régiment important de l'armée de Frédéric Guillaume, et puis ensuite de Frédéric II. Je suis un peu inquiet par ce qui se passe, là. Mais on va essayer de faire quelque chose.
Vous avez
coupé le Wi-Fi, mais il est coupé. Aïe. Non, tout va bien. Tout va bien. Voilà, il nous dit, on va l'ignorer. Voilà, on va certainement voir apparaître quelque chose. Alors donc, il est aumônier militaire, et en tant qu'aumônier militaire, il est directement impliqué dans notamment la première guerre de Silésie, la première guerre en fait menée par Frédéric II, et c'est ce qu'on va voir à l'instant un petit peu en image, si la machine veut bien nous faire quelque chose. Mais je pense, hein. Mais je crois qu'elle est coupée, tu sais. Non, j'ai rien. Voilà, oui, je vais vraiment quitter. Voilà. Alors là, il veut bien quitter, j'espère. Voilà. Et donc, on va arriver à ça. Diaporama. Voilà. Je suis désolé, hein. La technique a été un peu longue. Alors donc, je disais, voilà, Susmilch, démographe prussien, donc, parce que la petite introduction là, un peu décousue que je vous ai faite, c'est important que ce soit un démographe prussien en Prusse dans les années 1740-1760. Alors, démographe, évidemment, est un mot anticipé, hein. Ça n'existe pas à l'époque. En français, le mot démographie n'apparaîtra que beaucoup plus tard, bien sûr. Alors, voilà un portrait de Johann Peter Susmilch. C'est son nom. Je fais une petite mise au point, voilà. Alors donc, quelle est son idée? Sa grande idée pour faire des études qu'on appelle nous démographiques, c'est de dire que la Providence, c'est un pasteur, hein, un pasteur luthérien, la Providence régit les phénomènes de population. À savoir, donc, il y a un ordre, dit-il, que l'on peut percevoir en comptant, en calculant, dans les naissances, dans les mariages et dans les décès. Voilà, c'est la grande idée du pasteur Susmilch. Et pour défendre cette grande idée, il va toute sa vie pratiquement scientifique, de 1735 à peu près à 1767, c'est-à-dire à la date de sa mort, il va collecter des données. Il y en a peu à l'époque, mais je crois que vraiment Susmilch a collecté pratiquement tout ce qui pouvait exister comme données à l'époque. Il se trouve qu'il connaît un petit peu la langue française qui, comme vous le savez, est à cette époque parlée exclusivement à Berlin, puisque Frédéric II ne supporte pas l'allemand. Il dit que c'est la langue des chevaux. Et donc, à l'Académie des sciences de Berlin, où Susmilch va entrer, on parlera exclusivement français. Donc Susmilch va tant bien que mal parler un peu et écrire un peu français, mais surtout, très important, il lit l'anglais et il lit le néerlandais. Et ça, c'est extrêmement important parce que tous les pionniers de cette histoire démographique sont anglais et il y a des gens très importants également, notamment un de ses contemporains qui écrit en langue néerlandaise. Alors tout ça est évidemment très important. Voici la couverture de la première grande œuvre de Susmilch. Comme vous voyez, elle est publiée en 1741. Alors, il s'agit de l'ordre divin, hein, l'ordre divin dans les changements de l'espèce humaine, démontré par la naissance, la mort et la propagation de celle-ci. Hein. C'est donc à ce moment-là, en 1741,
La reproduction.
Oui, la reproduction. Voilà, on peut le traduire de manière... Vous avez tout à fait raison, mais j'ai essayé d'observer dans les traductions que je vous donne un petit peu le français de l'époque. Voilà, le français du XVIIIe siècle, et je pense reproduction était beaucoup moins employé que le mot propagation. Mais vous avez entièrement raison, en bon allemand, c'est tout à fait ça. Alors, pendant 20 ans, Susmilch va poursuivre cette première œuvre, il va considérablement l'augmenter, et il va publier en 1761 et 1762 un deuxième ordre divin, qui est l'ordre divin de 1761-62, donc je ne sais pas si la machine va nous le donner. Oui, voilà. Alors ça, ici, il s'agit de la première partie. C'est à la première partie que j'ai emprunté pratiquement tout ce que je vais vous dire. Alors en 1741, donc Susmilch est aumônier militaire, c'est tout ce qu'il est, et il est pasteur. Mais en 1761-62, il a fait sa carrière et il est maintenant conseiller du consistoire conseiller du consistoire supérieur royal de Prusse, prévôt à Köln, donc Köln c'est à Berlin, et il est membre de l'Académie royale des sciences de Prusse à Berlin depuis justement l'apparition du premier ordre divin en 1741. Alors voilà le plan que je vais observer. Je vais d'abord vous indiquer quelques circonstances de la composition des deux ordres divins. Ensuite, je vous parlerai de ce que Susmilch appelle une armée en marche. Et enfin, je vous donnerai quelques indications sur ses conceptions sur guerre et population. Alors tout d'abord, Susmilch dédicace ces deux ouvrages à Frédéric II, bien sûr, à son souverain, c'est la coutume de l'époque. Et en 1741, donc, il termine sa dédicace par une formule qu'il dit « En marche vers Schweidnitz ». C'est-à-dire que Susmilch s'est vu proposer une cure, non loin de Berlin, mais il l'a refusé pour suivre son régiment et pour aller lui-même sur le terrain de la guerre. Alors c'est pour cette raison que le 10 avril 1741, il va assister à une bataille très importante. C'est la première, je mets la souris dessus, c'est la première bataille importante livrée par Frédéric II, et c'est sa première victoire, il y en aura une longue suite après. C'est la bataille de Mollwitz, actuellement Malujowice, à notre époque. Mais ce Mollwitz est à l'époque, en 1741, une localité de Silésie, et c'est la guerre de conquête de Silésie qui est en train de livrer Frédéric II. Alors il va se passer des choses à cette bataille de Mollwitz pour Susmilch qui ont rapport justement avec sa présence sur la guerre. Alors, pour ce qui est des sources biographiques qui peuvent être convoquées pour connaître un petit peu les circonstances de la vie de Susmilch, on a d'abord cette relation de la vie et des mérites de Monsieur le conseiller du Haut Consistoire Susmilch, écrite par Johann Christian Forster, parue à Berlin en 1768, donc un an après la mort du pasteur. C'est une source très intéressante, très importante. Si vous n'êtes pas d'accord, comme Monsieur Bechler tout à l'heure, avec des traductions, vous me le dites, parce que non, j'y tiens, parce que les traductions sont de mon fait. Hein. Toutes les traductions de l'allemand sont de mon fait. J'ai pu me tromper, bien sûr. Alors, le Lebenslauf. Ensuite, j'ai traduit ça par curriculum vitae, faute de mieux, que Susmilch rédigea lui-même à la fin de sa vie. Et enfin, un éloge qui est prononcé en français, alors cette fois il n'y a pas de problème de traduction, en 1767 par le secrétaire de l'Académie des sciences de Berlin, qui est à l'époque Jean-Henri Samuel Formé. C'est un huguenot qui a été évidemment chassé par la révocation de l'édit de Nantes, enfin sa famille, et il s'est installé à Berlin et il est devenu bilingue, hein, mais il continue évidemment, sous la volonté de Frédéric II, les éloges de l'Académie de Berlin, les minutes des séances de l'Académie de Berlin sont rédigées en français. Voilà. Alors, voici la couverture à titre d'illustration de la Nachricht de la relation de Johann Christian Förster, paru en 1768, donc à Berlin. Et voici le Feldmarschall von Kallstein. Ce Feldmarschall von Kallstein, donc, c'est celui qui dirige et qui a monté le régiment dans lequel Susmilch est aumônier militaire. Alors, Susmilch a prêché en tant qu'aumônier militaire du régiment von Kallstein. Susmilch a prêché devant Frédéric Guillaume. Frédéric Guillaume, paraît-il, appréciait beaucoup les sermons de Susmilch, mais ensuite il a aussi prêché dans les premiers temps de Frédéric II, et Frédéric II l'a remarqué. Et c'est donc c'est Frédéric II qui va le recommander pour occuper les paroisses d'Etzin et de Knoblauch. Mais il ne va pas les occuper tout de suite, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va suivre son régiment à la guerre. Alors, voici ce qui lui arrive, si je retrouve ma souris, parce que les souris sont voyageuses, comme tout à l'heure, pardon. Alors, voici ce qui est arrivé à Susmilch pendant la bataille de Molwitz, ou un petit peu avant, le 10 avril 1741. Vous voyez qu'il y a un détail que j'emprunte ici au Lebenslauf, donc à quelque chose que Susmilch a rédigé lui-même. Après avoir été arrêté 2 heures durant auprès du train et derrière le front, je me rendis à cheval chez le pasteur de Pampitz, endroit que le train devait rejoindre. Très peu de temps après, le maréchal Neipperg, alors il s'agit d'un comte, le comte de Neipperg, qui est un Autrichien et qui est un adversaire, un ennemi de l'armée prussienne, très peu de temps après, donc, le maréchal Neipperg envoya un détachement de hussards du régiment Cosaque avec l'ordre, il y avait les Russes aussi dans cette affaire, avec l'ordre de brûler le village et donc la maison paroissiale et l'église, et de ne pas permettre au pasteur de se sauver le moins du monde, parce qu'on lui avait très faussement rapporté que ce pasteur avait révélé la situation de son armée. Les hussards parvinrent à allumer l'incendie, ils avaient déjà porté les flammes dans quelques maisons et investi celle du pasteur, que moi et quelques autres de notre armée ne nous étions encore aperçus de rien. Dieu me sauva de cette épouvante et fit aboutir ma toute première résolution. Je sautai à cheval et m'enfuyant par le jardin, je me mis en sécurité dans les champs voisins. Dieu m'arracha donc à ce danger de mort et me protégea également de tous les autres dangers. Alors il y a deux choses là-dedans, il y a évidemment le contact direct avec la guerre et il y a évidemment le rôle que Susmilch met toujours en avant de la providence. Alors, dans un bulletin, qui est un bulletin du petit village de Zehlendorf, qui est un... Bon, c'est maintenant plus un petit village, mais à l'époque, c'était un petit village qui est à peu près à 10 km de l'agglomération berlinoise. Ce bulletin de Zehlendorf, c'est le lieu de naissance de Susmilch. Et donc, vous avez des érudits locaux actuellement qui travaillent beaucoup sur Susmilch et sur Zehlendorf. Et dans un bulletin de Zehlendorf de 1987, on trouve une idée par une dame qui s'appelle Madame Anna Steinkopf. Cette idée que Susmilch, quand il a été surpris chez le pasteur de Pampitz, là, était en train de demander des registres. Il essayait de consulter des listes de population Bon, c'est une idée tout à fait séduisante, parce qu'on pense évidemment au grand exemple d'Archimède, hein, surpris par les soldats alors qu'il était en train de tracer, paraît-il, bon, c'est la légende, hein, de tracer des figures sur le sol. Alors on peut imaginer la même chose, Susmilch en train de compiler des listes ou de chercher des listes, et puis d'un seul coup, voilà l'armée qui débarque. Bon, voilà, mais c'est une hypothèse, hein, c'est l'hypothèse de Madame Steinkopf, c'est pas la mienne. Voilà, alors... Le pasteur, donc, en 1761, cette fois 20 ans après, n'est plus du tout sur le champ de bataille, mais la guerre, alors cette fois c'est la guerre de 7 ans, ça le concerne toujours de près, et voilà ce qu'il écrit. « Je me décidais enfin à consacrer les heures souvent bien tristes de cette guerre à la nouvelle édition de l'Ordre divin et d'y employer le temps assez bref dont on me laissait disposer. » Alors oui, à l'époque, Susmilch, comme je vous l'ai dit, a beaucoup d'occupations, parce que ce n'est pas rien d'être conseiller du Haut Consistoire, et il a beaucoup de choses à faire. Et, bon. Alors, je commençais donc, mais je me heurtais assez vite à des difficultés dans un travail qui nécessite une assez forte concentration de la pensée. Alors, cette concentration de la pensée, ce sont les calculs auxquels Susmilch se livre. Il se livre à d'assez nombreux calculs, relativement simples d'ailleurs, mais comme il n'est pas du tout, c'est pas du tout un esprit qui aime le calcul, alors il dit que ça lui donne des maux de tête, enfin que c'est absolument terrible, et c'est pourquoi d'ailleurs il fera appel au grand mathématicien qui est présent à Berlin dans ces années-là, Leonhard Euler. Voilà. Alors, Susmilch va donc jouer un rôle. Il joue un rôle en tant que religieux, mais il joue un rôle en tant que religieux qui est chargé d'établir les louanges de Frédéric II lorsque Frédéric II fait la guerre et qui gagne. Alors, il écrit des sermons. Les sermons, on les a. Hein. Je vous parlerai pour conclure tout à l'heure particulièrement d'un sermon dont je vous montrerai même quelques extraits. Alors, voici quelques titres. Je vous passe très vite. Hein, quelques titres des sermons que Susmilch écrit après la guerre de Silésie, mais aussi pendant la guerre de 7 ans. Voilà. Alors, ce sont des titres un petit peu empoulés. Hein. Mais le paradoxe, il est là, il va être tout le temps là, c'est que Susmilch n'est pas du tout un esprit guerrier, il n'aime pas la guerre, mais en même temps, il est obligé d'encenser Frédéric II. Voilà, bon, ça, je passe, évidemment. Alors, maintenant, le plus important pour cette deuxième... J'en arrive à ma deuxième partie. Le plus important, c'est évidemment l'image que Susmilch va donner de la population. Et cette image que Susmilch donne de la population, c'est très précisément celle d'une armée. Et c'est ça qui m'a paru vraiment intéressant pour vous en parler ce matin. Alors d'abord, Susmilch, alors ça c'est en 1761, hein, c'est dans le deuxième ordre divin. L'ordre, il décrit d'abord l'ordre en général qu'il dit, citation, « Il se crée par la ressemblance et l'uniformité de choses différentes que l'on trouve rassemblées ou qui se succèdent. » Puis il passe à l'explication de cet ordre. Alors il dit ceci, on peut se servir de l'exemple de la marche d'un régiment. Si rien n'est laissé au hasard, si les soldats et les sections se suivent par rang de taille selon leurs vêtements, leurs fusils et les autres éléments de façon uniforme, si les espaces sont les mêmes, si tous marchent au même pas, etc., on ne se contentera pas de reconnaître l'ordre, mais on louera le plus grand, le plus parfait, le plus harmonieux des ordres. Alors, le régiment des humains, hein, donc défile devant le seigneur des armées, c'est Susmilch lui-même qui s'exprime comme ça, dans un ordre admirable, selon certains chiffres, qui sont toujours dans un rapport précis avec l'armée des vivants, ce sont ses propres termes, et avec le nombre des partants, de ceux qui quittent, pardon, pour ainsi dire, le champ de bataille. Donc, pour le pasteur, dans cette histoire d'ordre de la mortalité, c'est l'expression que les contemporains emploient pour décrire la mortalité, dans cette histoire d'ordre de la mortalité, il n'y a aucun hasard pour le pasteur. Tout est réglé par les lois, bien entendu, de Dieu, c'est Dieu qui règle tout ça, par les lois de la Providence. Donc la succession des morts et des vivants est entièrement régie par Dieu. Mais ce Dieu, c'est le Seigneur des armées de l'Ancien Testament, et qui régit une armée. Voilà ce qui m'a paru intéressant. Alors, afin de régenter donc cette armée, le gouverneur du monde, comme dit Susmilch, c'est une expression qu'il emprunte beaucoup à Newton, hein, dans le fameux corollaire, enfin le dernier, comment ça, j'oublie toujours ce nom en latin, qui est à la fin du grand ouvrage de Newton sur la gravitation, Scolium Generale. Voilà, j'y suis, le Scoli Général. Alors, donc, c'est le gouverneur du monde fait sortir du néant l'armée nombreuse des humains. C'est toujours la même métaphore filée. Il nous fait, nous tous, défiler pareillement sous ses yeux jusqu'au moment où chacun, ayant atteint le but fixé, quitte le lieu de parade. Alors, Susmil, je donne un exemple de cette affaire. Il dit, voilà comment se répartissent les groupes d'âge lorsque Dieu organise le régiment. Alors, voici un petit tableau, vous voyez. Alors, il donne ces chiffres de 0 à 50, 6 à 10 ans, de 11 à 15 ans, de 16 à 20 ans, et il dit, etc. Et voilà, il dit, ça, c'est tout réglé. Alors, il dit, pour faire ce tableau, je me suis fondé sur un écrit que j'ai fait en 1756, qui est une défense de l'ordre divin, le premier, celui de 1741, devant l'Académie de Berlin, devant des contestations qui avaient été émises. Alors, évidemment, je possède ce texte, hein, le texte de 1756, on le trouve très facilement, et j'ai fait le test. J'ai fait le test en me servant des chiffres de 1756. Alors, voilà ce qu'on obtient. On obtient, vous voyez, des chiffres un petit peu différents. Ces données de 1756, il y a, je vous précise sur combien de gens elles sont établies. Je crois que je l'avais noté, mais je ne le retrouve plus. Non, c'est 221 000 et quelque chose d'essais de Berlin. Voilà. Hein. Alors, il montre qu'il s'agit d'un ordre, hein, et il dit, si l'on considère la nombreuse armée des hommes en marche, toujours la même image, on peut se la représenter divisée en compagnies. Chaque compagnie peut comprendre 5 ou 10 classes d'âge. C'est bien pourquoi il regroupe ces classes d'âge. Voilà. Voilà l'image. Comme vous voyez, elle est poursuivie très longtemps. Alors, je passe maintenant à la suite qui arrive. Voilà. Donc, la mortalité suit un ordre régulier, selon Susmige, produisant un défilé, toujours pour son image, parfaitement ordonné. Chaque division d'âge a ses accidents et quitte la revue, parle de revue, de façon différente. À partir de là, donc, Susmige est en droit d'espérer que cette représentation imagée ne montre pas seulement en quoi consiste l'ordre, mais qu'elle permet de voir également que l'essentiel de nos réflexions a pour but de nous convaincre de la grandeur, de la perfection, de l'harmonie de l'ordre que le plus sage des créateurs a fixé pour la naissance, la durée de la vie et la mort. Alors cette image, elle vient en fait, Susmilch la met à sa propre sauce, si j'ose m'exprimer ainsi, sa sauce militaire, mais elle vient de quelque chose qui n'est pas du tout militaire, qui est un texte qui est paru en 1711, un texte anglais dans le Spectator, le Spectator, c'est une sorte de revue, hein, un périodique, signé par Joseph Addison et Richard Steele. Et dans la 151e livraison du Spectator en 1711, on a ce que les auteurs appellent la vision de Mirza. Alors voici une pas très bonne illustration de la vision de Mirza, parce qu'on voit l'origine, hein, de l'image, mais il y a des droits. Ce pont que vous voyez bien un pont, là, une espèce de viaduc, hein, ce pont que vous voyez est la vie humaine. Je trouvais qu'il y avait 70 arches entières et plusieurs rompues qui, jointes ensemble, pouvaient aller au nombre de 100 ou environ. Je vis d'ailleurs un grand nombre de passagers qui tombaient dans l'eau à travers le pont, et je m'aperçus qu'il y avait quantité de trappes cachés, sur lesquels ils n'avaient pas plutôt 1000 pieds qu'ils s'enfonçaient et disparaissaient tout d'un coup. Ces trappes étaient si nombreuses à l'entrée du pont, mais oui, à l'entrée du pont parce qu'il y a de la mortalité infantile, hein, comme on le rappelait tout à l'heure, ces trappes étaient si nombreuses à l'entrée du pont que de cette foule de monde qui sortait du nuage, non, les gens sortent d'un nuage, il y en avait plusieurs qui échouaient d'abord. Dès le début, quoi. Elle n'était pas si fréquente vers le milieu, bon là ça va mieux, la courbe de survie est meilleure, mais vers l'extrémité des arches entières, elle se multipliait beaucoup. Alors, cette image de la vision de Mirza a été reprise par des gens très sérieux, par des statisticiens extrêmement sérieux, comme par exemple Carl Pearson, qui a été un des grands promoteurs aussi d'une forme d'eugénisme, hein, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler darwinisme social, mais qui a en même temps été un grand statisticien. Il est notamment fondateur et vulgarisateur d'un coefficient de corrélation qui est très important en statistique. Bon, et ce Karl Pearson a été très intéressé par cette vision de Mirza, et ce qu'il dit est repris par un démographe anglais, un historien de la démographie anglais, James Bonar, B-O-N-A-R, qui décrit cette vision de Mirza et qui en donne une illustration avec des chiffres, vous voyez. Alors, ce que Bonnard dit, reprenant Pearson, la répartition des décès dans la vision de Mirza, la mort attaque la colonne des vivants qui traverse le pont de la vie, donc plusieurs tireurs d'élite, mais c'est modernisé, à sa solde, visent différentes parties de la colonne selon différents degrés de précision. À chaque pas, des hommes peuvent être touchés par plus d'un tireur. Un tireur particulièrement habile vise l'âge de 72 ans, mais les principaux touchés se trouvent dans la 67e année. Nous sommes en 1931. James Bonnard écrit ceci en 1931. Ce sont donc les années 20-30. C'est un tireur très destructeur, armé d'une sorte de fusil. Un autre vise la 42e année. Il ne touche que 173 personnes sur un millier qui entament la traversée du pont, tandis que 484 ont été tués par l'homme au fusil. L'homme au fusil. Un troisième vise la 23e année. La faible mortalité de la jeunesse pourrait être illustrée en donnant à la mort un arc et des flèches. Oui, la mort est beaucoup moins habile, apparemment, à l'arc et aux flèches. La précision la plus mortelle se trouve à la 3e année de vie. Le feu est beaucoup plus concentré. La précision du tireur qui vise les enfants est presque 3,5 fois aussi grande que chez celui qui vise la jeunesse. Son arme ressemble plus à une mitrailleuse qu'à un arc. Dans la mortalité des petits-enfants, le tireur joint une intense concentration à la précision mortelle du tir. Donc voilà peut-être une des origines de l'image que développait Susmilch, puisque la vision de Mirza, ça c'est sûr, il l'avait lue. En 1711, qui a été paru en 1711. Alors, voici aussi pour évoquer un grand nom de l'histoire de la démographie, l'anglais John Grant, qui a écrit les Observations on the Bill of Mortality of London, et publié pour la première fois en 1662, donc on est 100 ans avant. 100 ans avant Susmilch, mais Grant, vous voyez, dans la préface qu'il donne à cet ouvrage, dit « Et je m'enquire avec la même ferveur de vos entreprises contre ce qui fait obstacle à la science que des armées et des flottes levées par les différents princes de ce monde. Je me réjouis autant d'apprendre que vous êtes satisfait d'une expérience éclairante que de savoir qu'une brèche a été faite dans les fortifications de l'ennemi. » Vos argumentations ingénieuses, basées sur les sens et les faits, me sont aussi agréables que le bruit des canons victorieux et des trompettes. Voilà. Alors, voici un très beau tableau, bien postérieur à tous ces gens dont je vous parle. C'est un tableau d'Otto Dix, le grand peintre allemand Otto Dix. Ce triptyque s'appelle « La guerre », 1929-1932. Et il m'a paru illustrer ses propos de Susmilch. J'ouvre ici la troisième partie. Comme aucun siècle ne se passe sans que la guerre n'éclate dans un pays ou un autre, souvent dans plusieurs à la fois, et comme elle est d'ordinaire incessante durant de nombreuses années, le compte est facile à faire. On pourrait presque dire qu'en ce monde, les années de guerre sont plus nombreuses que les années de paix. Cela est au moins vrai pour les derniers 150 ans, tandis que l'Allemagne a eu à mener tantôt des guerres à l'extérieur, tantôt des guerres civiles. Ainsi, la guerre, ajoute Susmilch, la guerre est un véritable monstre, une tache honteuse de la raison, et elle a de funestes conséquences pour l'espèce humaine et son accroissement. Voilà, alors c'est la dernière partie, j'irai assez vite. J'ai listé les 7 méfaits de la guerre que Susmilch nous expose. C'est tout à fait classique, mais évidemment il les expose sous l'angle que nous appellerions démographique. Il en ajoute un 8e. Le 8e point peut intéresser ce séminaire. Il évoque, alors dans un tout autre ordre d'idées, un tout autre endroit de l'ordre divin, il évoque la prostitution et la débauche, ça c'est un de ses grands thèmes. Susmilch se rappelle qu'aumônier militaire, il a vu beaucoup de jeunes gens robustes comme des chênes, expirant et tombant sur place, à qui le médecin voyait en vain son labeur. Le mariage a également de ce point de vue de grands avantages, et j'ai connu dans le régiment plusieurs exemples de gens livrés au désordre qui, aussitôt mariés, devenaient tout autres et les meilleurs hommes et soldats, alors qu'ils avaient été les plus grands sujets de mécontentement pour leurs officiers par leur précédent libertinage et leur vie putassière. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec la vie putassière, mais j'ai traduit comme ça. Voilà. Alors, bien, il s'agit donc de montrer que la guerre est ravageuse. Hein. On a un manuscrit de 1748 qui s'appelle « Preuve que beaucoup d'endroits en Poméranie, dans le cours actuel du XVIIIe siècle, sont beaucoup moins construits et beaucoup moins peuplés qu'ils n'étaient au XVIe siècle ». Alors, c'est un manuscrit. Hein. Et dans ce manuscrit, donc, Susmille fait une sorte de, comme vous voyez, de relevé d'un certain nombre de petits villages, de petits bourgs de la Poméranie. Et il montre que les fermes manquantes, en deux siècles, le nombre s'élève à 172 fermes. Et alors, du coup, il en conclut qu'il est clair que dans cette partie de la Poméranie où sont situés les villages susmentionnés, il y en a moins de la moitié en 1703. Qui sont aussi bâtis et peuplés qu'auparavant, à savoir en 1593, lorsque le premier relevé a été fait. Voilà. Cette perte est donc très préjudiciable au prince. Hein. Alors, Susmilch utilise un multiplicateur, qu'on appelle un multiplicateur à l'époque, et il attribue une famille à chaque ferme et 6 personnes à chaque famille, et il en déduit que dans ces 172 fermes, ça donne 1032 personnes qui seraient en moins depuis les années 1600. Voilà. Alors ensuite, donc, il s'agit de montrer que la guerre n'est pas. Ça, c'est très compliqué. Bon, je vous passe les détails de l'argumentation. Elle est très complexe. Susmille va s'ingénier à montrer que la guerre n'est pas l'œuvre de la Providence. Surtout pas. Hein. La guerre, c'est l'œuvre des hommes. La Providence divine n'a pas du tout voulu ça, parce que, bien sûr, la Providence divine ne peut pas vouloir le mal à l'origine. Hein. Alors, bon, j'ai cité là, un passage... En noir, c'est du Susmilch. Beaucoup sont d'avis qu'il faut que la guerre ait lieu par nécessité. Il va critiquer ça. L'anglais Rudyard, alors il s'agit d'un anglais qui écrit dans les années 1682. L'anglais Rudyard, très longtemps avant, donc aussi, a eu l'audace de prétendre que 100 ans ne pouvaient s'écouler sans guerre ni peste si les autres créatures devaient suffire à la subsistance des hommes. Ça veut dire qu'au fond, ce que dit Rudyard, c'est un esprit assez avancé, hein, pour l'époque, c'est quelqu'un de très intéressant, ce que dit Rudyard, c'est que s'il n'y avait pas les guerres et s'il n'y avait pas les épidémies, ben on se mangerait. On serait obligé de se manger les uns les autres. Mais oui, c'est pour ça que Susmilch, ça le fait bondir. Alors, je vous cite en dessous le passage de Rudyard concerné, vous le consulterez le cas échéant. Alors voilà, que la guerre et la peste, dit Susmilch, ont été constantes, nous persuadent qu'elles ne peuvent être un moyen de maintenir l'équilibre. Il ne reste donc plus qu'à devoir nécessairement accorder que Dieu use de la peste comme d'un châtiment pour la créature méchante, c'est l'épidémie, hein, ça, mais de la guerre, Dieu n'en est pas la cause, mais bien les hommes eux-mêmes. Mais Dieu, en son juste jugement, la laisse en châtiment à l'homme. Voilà. Alors, c'est toujours la même optique, hein, providentialiste de Susmilch. Alors, il va essayer de montrer que le progrès des sciences, si l'on peut dire, a fait également progresser les techniques de guerre. Bon, il y a tout un débat sur un débat tout à fait classique au XVIIIe siècle, la controverse sur le feu et le mouvement. Et Susmilch montre que la poudre, l'invention de la poudre, est quelque chose de tout à fait raisonnable et que ça fait moins de victimes que, bon, le pauvre, s'il avait vécu encore deux siècles, il se serait aperçu que malheureusement l'être humain est inépuisable sur les techniques de destruction. Voilà. Alors, Susmilch souligne que la guerre emporte notamment, principalement et surtout le sexe masculin et particulièrement les jeunes gens nubiles. Ainsi peut naître, alors là c'est tout un autre débat que là encore je ne peux pas détailler, qui est le débat sur la polygamie. Il s'agit de montrer que la polygamie, ça c'est quelque chose de complètement condamné par un pasteur luthérien, hein, mais que ça a pu être nécessaire à certaines époques de l'histoire. Voilà. Ainsi peut naître, dit-il, la menace qui pesa sur les Juifs que cette femme devrait rechercher un seul mari. La polygamie a donc pu exister dans les temps anciens où une carence du sexe masculin a fait qu'elle n'a pas alors été opposée à l'ordre de la nature ni aux droits des autres hommes. Toutes ces controverses du XVIIIe siècle, Susmilch est en plein dedans, et c'est entièrement lié. Elles sont liées entre elles. La controverse sur la polygamie est également liée à celle de la dépopulation du monde et à ce grand débat qui sera réglé par David Hume, hein, notamment, de savoir si les massacres de l'Antiquité étaient beaucoup plus considérables que ceux que l'on voit à l'époque, et si les populations de l'Antiquité étaient beaucoup plus considérables que celles qu'on voit au XVIIIe siècle. Toutes ces controverses, évidemment, Susmilch est impliqué dedans. Alors, je termine maintenant en parlant d'un dernier point, c'est Susmilch se pose la question de savoir si l'État peut justifier l'usage de l'emprunt forcé. Eh bien, il dit oui. Dans le cas de défense de la patrie, le souverain a le droit d'exercer une contrainte qui est l'emprunt forcé. Pourquoi ? Parce que le citoyen doit donner, on ne rembourse pas le citoyen lorsque la patrie est en danger, le citoyen donne. Voilà. Alors l'argument massu, c'est puisque le devoir est de donner son sang, il ne faut pas renâcler a fortiori à donner son argent. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, un souverain est justifié d'exiger de ses sujets des contributions extraordinaires par la capitation et d'une autre manière, sans qu'il lui soit nécessaire de leur promettre le remboursement. Alors, on voit bien là aussi que Susmilch est un turiféraire de Frédéric II. Bien sûr, ça, c'est complètement la politique de Frédéric II et c'est complètement, oui, oui, le souverain a raison. C'est tout à fait ça. Alors, je termine comme promis en vous indiquant quelque chose sur un des sermons que Susmilch a prononcé, dont voici la couverture. Voilà. C'est un sermon qu'il a prononcé donc en 1742. Il avait déjà rejoint ses cures de Etzin et Knoblauch. Et il prononce ce sermon à propos d'une victoire. Il commente le psaume 21, versets 2 à 4, que voici. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. Bon, il s'agit donc là de montrer que finalement Frédéric II a gagné et qu'on est tous contents. On se réjouit beaucoup. Das Frohlocken, hein, c'est un terme qu'on retrouve aussi dans les cantates de Bach, hein, tout à fait à la même époque. C'est la réjouissance, c'est la fête, hein, c'est vraiment la célébration. Enfin, il y a beaucoup de choses dans Das Frohlocken. Alors, comment Susmilch s'en tire-t-il ? Ben, il s'en tire en disant que de toute façon, Frédéric II n'y est pour rien. Certes, c'est un bon militaire, mais bon, c'est Dieu. Dieu est tout à fait l'auteur de la victoire, et tout ce qu'on peut souhaiter, bah, c'est que ça soit la dernière, que ça soit la dernière des guerres, et que ça soit la dernière des victoires. Voilà. Cette victoire, je traduis quelques tout petits passages du sermon, cette victoire soit la dernière victoire de notre roi, que cette importante victoire puisse mettre fin à la guerre et poser les bases d'une rapide paix. Rien n'est l'œuvre de Frédéric II, tout est l'ouvrage de la main de Dieu, comme il dit, de l'exercice de sa toute-puissance, lui qui régit tout avec bonté et sagesse. Dieu conserve et régit le monde, et sans lui ne se produit ni bonheur ni malheur. Les guerres occasionnant de très importants bouleversements, on peut d'autant moins se mettre en tête que le Seigneur des armées, on retrouve cette expression qu'on trouvera également dans l'ordre divin de 1761, le Seigneur des armées serait en cela indifférent, ou que sa toute-puissante main, qui dirige toute chose vers son but propre, soit oisive. On ne peut pas, absolument pas, douter que le Seigneur des armées y est pour quelque chose. Que sont devenus, donc, dit Susmilch, que sont devenus Carthage, Thèbes, Tyr, Babylone, Ninive, Persépolis, tant d'autres villes puissantes et peuplées? Ça, c'est la résonance biblique, hein, évidemment. Quand il prononce des sermons, Susmilch cite abondamment la Bible, mais non seulement il cite, mais il est complètement pénétré, comme tout pasteur luthérien, du style, surtout de l'Ancien Testament d'ailleurs. Voilà. Et pour terminer, donc, je vous montre une petite image qu'on trouve, qui est la guerre de 7 ans, une image prise pendant la guerre de 7 ans. C'est l'assaut de Berlin par les Russes et les Autrichiens. On possède un texte de Susmilch qui s'appelle « La relation circonstanciée de cet assaut ». Susmilch a écrit ce fait lui-même, chroniqueur militaire, en 1760. Et malheureusement, j'ai pas pu citer ce texte parce que je l'ai commandé en Allemagne, mais je l'attends encore parce qu'il est paru dans une revue assez particulière. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long.
Merci à vous pour cet exposé sur Susmilch. Je connaissais le nom, mais j'ignorais tout de la carrière de Susmilch, qui est un cas tout de même tout à fait intéressant, enfin, de combinaison d'ancien et de moderne, enfin, d'esprit quasi scientifique et puis mythique, enfin, dirions-nous, et tout à fait intéressant, merci. Alors, quelqu'un veut-il poser une question, commenter, développer ? Oui,
un point particulier, quand vous avez cité la prostitution, là où il parle de la prostitution, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les troupes allemandes en occupation en France, le commandement interdisait les rapprochements avec les femmes françaises, interdisait de vivre en ménage. Mais en réalité, après le discours, il était très favorable à cette solution, ça stabilisait les hommes et ça évitait le vagabondage amoureux et les maladies vénériennes qui apparaissaient derrière. C'est très intéressant, cette histoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres...
Il y a un grand roman de Vargas Llosa, et peut-être le plus drôle des romans de Vargas Llosa, qui s'appelle « Pantaleón y las visitadoras ». Et donc, c'est un soldat péruvien, bureaucrate, comme on ne peut pas, qui est chargé de mettre sur place un service de visiteuses pour que l'armée péruvienne cesse de faire des ravages chez les jeunes élèves des missions installées le long des fleuves amazoniens. Et tout le livre est une alternance extraordinaire de rapports de missions, de frais, etc. Bien entendu, la mission est secrète, il ne souhaite rien dire à sa femme, qui finit par apprendre la chose, etc. Mais c'est un... Voilà, c'est une...
Monsieur Delvolvé,
Sur ce point un peu particulier, je peux citer un très grand arrêt de la jurisprudence administrative rendu par le Conseil d'État en 1918 à la requête des dames Dole et Laurent, se présentant en qualité de filles galantes, qui avaient attaqué devant le Conseil d'État la décision du préfet maritime interdisant à ces dames de circuler aux alentours du camp de Toulon pour préserver la santé des soldats qui partaient pour le front d'Orient.
Merci. Alors, une question pour revenir à Zusmilch. Bon, il y a deux régulateurs de la population, la peste, donc c'est les épidémies en fait, et la guerre. Établit-il, ou quelqu'un dès l'époque, établit-il une relation de cause à effet entre la guerre et les épidémies ?
Oui, complètement. Complètement. Alors, il est très, très conscient de ça. On pourrait citer des passages où il dit, de toute façon, le grand accompagnateur de la guerre, c'est l'épidémie. Les deux sont complètement liés. D'ailleurs, on l'a vu sur une ou deux citations là, mais c'est constant chez lui. Il relie toujours, il parle toujours ensemble de la guerre et la peste. C'est toujours très lié. Alors quelquefois, comme on l'a vu, il fait une petite distinction, mais de toute façon, pour lui, ce sont des fléaux qui arrivent en même temps. La guerre, l'épidémie, la famine. La famine qui est corrélative.
Non, c'est dans votre texte écrit, insistez, parlez-en, parce que c'est tout de même... Dès le XVIIIe siècle.
Mais ce sont les cavaliers de l'Apocalypse, c'est tout bêtement, quoi. Enfin, la guerre, l'épidémie. Mais les deux sont liés, c'est évident, mais c'est lié déjà dans la plus haute.
C'est pas si évident que ça, parce que la famine, oui, et encore, c'est parce qu'il n'y a pas d'intendance organisée, mais les épidémies, ça va pas de soi. C'est le déplacement des troupes, enfin. Qui fait circuler les germes, enfin. Et donc ça, c'était perçu déjà à l'époque. Oui, hein, oui.
C'est en partie, Susmilch fait allusion, quand il parle aussi de ça, à la guerre de 30 ans, parce que la guerre de 30 ans a été tellement marquante pour les gens de langue allemande, enfin pour les pays de l'Empire, que c'était quelque chose qu'il avait encore complètement dans la tête. Alors il avait des chiffres, mais il avait aussi cette idée-là qu'il y avait eu d'épouvantables épidémies pendant la guerre de 30 ans et les famines corrélatives.
Ce qui est amusant, c'est de voir, en fin de compte, le système prussien, entre guillemets, mais qui vient aussi de Hollande, c'est-à-dire le drill, c'est-à-dire l'organisation de l'armée, vraiment, il n'y a qu'une tête, l'uniforme, etc. Et donc le rêve, c'est la population. Et au XIXe siècle, on disait toujours que la Prusse n'avait pas une armée, mais que l'armée avait une population.